Maman croyait nécessaire de me contrarier puisque j'étais mon père et que mon père devait être contrarié. « C'est pour que tu ne deviennes pas comme ton père », me disait-elle. Ce n'était pas logique, puisque, selon elle, j'étais déjà Patrick. En plus, mon père n'était pas particulièrement attiré par le sucre. Il n'avait par ailleurs aucune prétention à la divinité. Des disparités si flagrantes n'ouvrirent pourtant pas les yeux de ma mère sur ma différence fondamentale. Si Dieu mangeait, il mangerait du sucre. Les sacrifices humains ou animaux m'ont toujours paru autant d'aberrations. Quel gaspillage de sang pour un être qui aurait été si heureux d'une hécatombe de bonbons! Il faudrait raffiner. Au sein des sucreries, il en est de plus ou moins métaphysique. De longues recherches m'ont mené à ce constat. L'aliment théologal, c'est le chocolat. Je pourrais multiplier les preuves scientifiques, à commencer par la théobromine, qu'il est seul à contenir et dont l'étymologie est criante. Mais j'aurais un peu l'impression d'insulter le chocolat. Sa divinité me semble précéder les apologétiques. Ne suffit-il pas d'avoir en bouche du très bon chocolat, non seulement pour croire en Dieu, mais aussi pour se sentir en sa présence? Dieu, ce n'est pas le chocolat, c'est la rencontre entre le chocolat et un palais capable de l'apprécier. Dieu, c'était moi en état de plaisir ou de potentialité de plaisir. C'était donc moi tout le temps. Si ma divinité n'était pas comprise consciemment par mes parents, j'avais parfois l'impression qu'une obscure part de leur cerveau était au courant et l'acceptait. J'avais un statut spécial. Ainsi, quand il fallut me scolariser, on ne me mit pas à l'école américaine que fréquentaient mon frère et ma sœur. On m'inscrivit au Yotien, le kindergarten japonais du bout de la rue. J'atterris donc dans la Tampopogumi, classe des pissenlits. Je reçus l'uniforme. Jupette bleu marine, blazer bleu marine, béret bleu marine et petit cartable à dos. L'été, cette tenue était remplacée par un tablier qui recouvrait le corps comme une tente et par un chapeau de paille pointu. J'avais l'impression d'être vêtue de toit. J'étais une maison à plusieurs étages. Tout cela paraît mignon. C'était abject. Dès le premier jour, je me pris d'une aversion sans bornes pour le Yotien. La Tampopogumi était l'antichambre de l'armée. Faire la guerre, j'étais d'accord. Mais marcher au pas de loi, à coups de sifflet, obéir aux voix scandées des caporaux déguisés en maîtresse d'école, c'était en dessous de ma dignité et c'eût dû être en dessous de la dignité des autres. J'étais la seule non-nippone du Yotien. Je n'affirmerai pas pour autant que mes condisciples s'accommodaient de cette situation. Il serait d'ailleurs infâme d'imaginer que, sous prétexte d'appartenir à tel ou tel peuple, on a des accointances avec l'esclavage. En vérité, je soupçonne les autres enfants d'avoir ressenti les choses comme moi. Nous simulions. Les photos de l'époque le prouvent. On me voit sourire avec mes camarades, on me voit coudre sagement au cours de couture, les yeux baissés sur mon ouvrage que je bâclais avec application. Or, je me rappelle trop bien mes pensées au sein de la Tampopogumi. J'étais continuellement indignée, furieuse et terrorisée à la fois. Les maîtresses étaient à ce point le contraire de ma douce gouvernante Nishio-san que je les haïssais. La suavité de leur visage était une trahison supplémentaire. Je me souviens d'une scène. L'une des caporales avait à cœur que nous chantions, avec un ensemble parfait, une petite rengaine pleine d'enthousiasme, claironnant notre joie d'être des pissenlits disciplinés et souriants. J'avais décidé d'emblée que chanter cette chanson serait aller à Canossa et je profitais de l'effet choral pour simuler le chant comme je simulais la complaisance scolaire. Ma bouche esquissait les paroles sans qu'aucune corde vocale ne collaborât. J'étais très fière de ce stratagème qui était une désobéissance de grand confort. La maîtresse dut se douter de ma finasserie, car un jour elle dit « Nous allons varier l'exercice. Chaque élève chantera à son tour deux phrases de l'hymne des pissenlits, puis laissera son voisin prendre le relais, et ainsi de suite jusqu'au bout. » L'alarme ne retentit pas aussitôt dans ma tête cette fois-ci. Je résolus de faire une entorse à ma règle et de chanter pour de vrai cette fois-ci. Peu à peu, je pris conscience que je ne connaissais absolument pas les paroles. Mon cerveau avait à ce point refusé l'hymne des pissenlits qu'il n'en avait pas retenu un mot. Quand je simulais, mes lèvres n'imitaient pas ce qu'elles eussent dû voiser. Elles bougeaient n'importe comment, en un mutisme anarchique. Entre-temps, la chanson avançait inexorablement comme une théorie de domino. La seule chose qui eût pu me sauver, à part un tremblement de terre, eût été l'irruption, avant mon tour, d'un autre simulateur. Je ne respirais plus. Il n'y eut pas d'autres petits malins, et le moment fatidique arriva. J'ouvris ma bouche et il n'en sortit rien. L'hymne des pissenlits, qui jusque-là avait joyeusement couru de lèvre en lèvre en un rythme sans faille, tomba dans un gouffre silencieux qui portait mon nom. Tous les yeux se tournèrent vers moi, à commencer par ceux de la maîtresse. Faussement gentille, elle affecta de croire à un minuscule trou de mémoire et prétendit me remettre dans le circuit en me soufflant le premier mot de ma portion de chanson. Inutile. J'étais paralysée. Je ne pus même pas répéter le mot. J'avais trop envie de vomir. Elle insista, sans résultat. Elle me concéda un mot supplémentaire. En vain. Elle me demanda si j'avais mal à la gorge. Je ne répondis rien. Le pire fut atteint quand elle me demanda si je comprenais ce qu'elle disait. Elle suggérait ainsi que si j'avais été japonaise, il n'y aurait pas eu de problème, que si j'avais parlé sa langue, j'eusse chanté comme les autres. Or, je parlais japonais. J'étais simplement incapable à cet instant de le prouver. J'avais perdu la voix. Cela non plus, je n'étais pas capable de le dire. Et je lus, dans les yeux des pissenlits, cette chose affreuse. Comment n'avions-nous pas encore remarqué qu'elle n'était pas nipponne? L'épisode se conclut par l'atroce indulgence de la maîtresse pour cette petite étrangère qui, forcément, n'avait pas les compétences des bons pissenlits nationaux. Le pissenlit belge, ce devait être du sous-pissenlit. Et l'enfant suivant chanta ce que je n'avais pu chanter.